Voilà, j'en ai terminé avec les infos Facebook et les infos Transistor. Et je vous propose tout de suite de passer à quelques informations. Florence Nussbaum, qui présente Micro-Ondes, eh bien, nous propose une petite revue de presse française de l'actualité de la semaine. Mais vous allez découvrir que eh bien, les journalistes français ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé d'international et pour cause. En somme, on peut dire qu'elle résume à elle seule toute la rubrique actualité de Transistor, les actualités nationales qu'on retrouve d'habitude sur Micro-Ondes, et puis les actualités internationales dont on a eu tout à l'heure un aperçu avec Le Monde ne suffit pas. Je vous laisse écouter Micro-Ondes.
C'est un micro-ondes un peu spécial que nous vous proposons en ce jour de direct, puisque, évidemment, nous ne pouvons rien vous réchauffer, concept du direct oblige. Or, vous le savez, chez micro-ondes, l'actualité est notre fonds de commerce, et le territoire français notre terrain de jeu. J'ai donc décidé de vous livrer une brève revue de presse de la semaine écoulée, vue de la presse française. Lundi 31 janvier, c'est bien sûr l'Égypte qui fait la une de la plupart des quotidiens. Libération titre ainsi « Moubarak dégage », tout comme l'humanité, et explique dans un article l'ambiguïté de la situation égyptienne, puisque l'armée, désormais du côté du peuple, a tout intérêt à ce qu'Hosni Moubarak reste au pouvoir, puisque depuis 1979 et les accords de Camp David, elle est payée 1 milliard de dollars par an par les États-Unis pour ne pas se battre et pour préserver la paix avec Israël. Or, l'arrivée au pouvoir de dirigeants ne servant pas les intérêts américains, islamistes par exemple, entraînerait l'arrêt des généreuses subventions de la diplomatie américaine envers l'armée égyptienne. Elle a donc aucun intérêt à ce que la situation change et à une démocratisation véritable. Le Monde, lui, fait état de la censure opérée par la Chine vis-à-vis de la révolution égyptienne. Les autorités ont en effet demandé au portail internet de ne plus faire apparaître le résultat du mot-clé « Égypte ». De même, les médias chinois évoquent à peine le mouvement. Sur la scène nationale, un article du Figaro relate des confidences livrées par Carla Bruni-Sarkozy aux Parisiens aujourd'hui en France, dans lesquelles elle affirme n'avoir jamais voté à gauche en France et ne pas avoir l'intention de le faire. Elle refuse de s'engager en politique, mais évoque le désir de s'investir dans le domaine humanitaire. La politique, elle ne fait pas peur à Stéphane Guillon, qui a obtenu gain de cause devant les prud'hommes de Paris contre le groupe Radio France pour son licenciement. Il s'en tire donc avec plus de 200 000 euros de dédommagement, comme le rappelle l'Humanité. Enfin, l'info people du jour, c'est la mort de John Barry, le compositeur des thèmes de James Bond, décédé à 77 ans. Il avait aussi composé la musique de la série Amicalement Vôtre et avait obtenu plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure bande-annonce pour Out of Africa en 1986. Mardi 1er février, l'Égypte toujours, alors que l'opposition appelle le peuple à une grève générale. L'Égypte qui fait parler ses voisins, puisque selon le Nouvel Observateur, les autorités marocaines ont marqué leur volonté de prévenir toute tentation d'établir un parallèle avec l'Égypte et la Tunisie. Les journaux proches du pouvoir dénoncent même la fabrication d'un mythe de la contagion. Ils réagissent ainsi aux propos de quotidiens espagnols qui évoquent des mouvements de troupes rappelés du Sahara occidental pour parer à d'éventuels troubles dans la capitale. Malgré les dénégations, la nervosité des autorités est palpable. En France, ce n'est pas la révolution, mais la grogne des CRS a porté ses fruits. Le Monde explique ainsi que Brice Hortefeux a finalement décidé de ne pas fermer les compagnies de CRS de Lyon et Marseille devant la grogne provoquée par ce projet. Selon le quotidien, les CRS qui ne disposent pas du droit de grève avaient multiplié les arrêts maladie et avaient même entamé une grève de la faim. L'Équipe fait sa une sur l'équipe de France de handball avec un titre accrocheur « En route pour d'autres défis » qui fait suite à la victoire de l'équipe de France dimanche au championnat du monde, remportant ainsi son 4e titre mondial. Enfin, le Parisien aujourd'hui en France nous annonce que Eva Longoria et Tony Parker sont aujourd'hui officiellement divorcés, rupture officialisée devant un tribunal du Texas. Mercredi 2 février, la tension monte en Égypte. Le général Moubarak a annoncé qu'il ne se représenterait pas au présidentiel de septembre, mais le peuple demande son départ immédiat. Or, face au Raïs, les principaux opposants sont les dirigeants islamistes. Le Figaro évoque l'inquiétude des Coptes face à cette importance croissante des frères musulmans. Ils sont de plus en plus visibles dans les cortèges, et certains craignent que la démission de Moubarak entraîne leur arrivée au pouvoir. D'autres, en revanche, estiment que le principal ennemi des chrétiens d'Égypte est le président Moubarak, qui se sert des frères musulmans et d'Al-Qaïda comme d'épouvantail, se présentant ainsi comme le rempart contre l'extrémisme. Le Figaro, toujours, avec un sens de l'humour certain, publie un article intitulé « Nestlé suspend la production de ses saucisses halal Herta » suite à la publication d'un rapport d'analyse faisant état de traces de porc dans ses produits destinés à la consommation des musulmans. Cette affaire relance le débat sur la certification halal, puisque l'article rappelle qu'il n'existe aujourd'hui aucune norme, législation ou obligation de contrôle en ce qui concerne les produits halal. En France, et ce, comme dans tous les autres pays d'Europe. Littérature, enfin. Libération publie une tribune sur l'affaire Céline. Suite au retrait de l'auteur du Voyage au bout de la nuit du recueil des célébrations nationales pour 2011, Philippe Roussin, directeur de recherche au CNRS, estime dans les pages de Libération que le problème est peut-être justement celui des célébrations nationales. Pour lui, la littérature n'est pas une entreprise nationale et n'est pas l'affaire de l'État. Pour l'écrivain Marc Weitzmann, la République ne peut pas célébrer Céline car elle n'a pas à faire l'amalgame entre politique et littérature. Pour lui, un écrivain n'a pas vocation à être un bon citoyen. Et dès lors, il n'y a pas à célébrer Céline, mais il faut avant tout l'étudier, afin de lui rendre la place qu'il mérite comme écrivain. Jeudi 3 février, les affrontements ont commencé au Caire entre pro et anti-Moubarak. Alors que Paris appelle les Français à quitter l'Égypte, l'Humanité raconte que son envoyé spécial a été arrêté par des miliciens pro-Moubarak. Au final, plus de peur que de mal, mais les barrages se multiplient dans la ville et les miliciens contrôlent les accès. Et avec la montée des violences, Le Monde fait part de l'inquiétude croissante autour des antiquités du musée égyptien du Caire. Entre les dommages collatéraux liés aux affrontements et le risque des pillards, les égyptologues craignent pour leur collection. Ils pensent notamment au chaos qui a régné à Bagdad en 2003 après la chute de Saddam Hussein. Néanmoins, la chaîne humaine formée par la population égyptienne vendredi dernier autour du musée pour éviter la fuite de pillards qui s'était introduit dans les salles rassure les égyptologues. Dans Le Monde toujours, direction les États-Unis et plus précisément New York, dont le conseil municipal a adopté mercredi l'interdiction de fumer dans ses parcs, sur ses plages et autres lieux de plein air. Une loi anti-tabac particulièrement restrictive, à l'image de celle déjà votée en Espagne. Le Monde rapporte que l'interdiction a évidemment provoqué un tollé chez les fumeurs new-yorkais qui dénoncent une atteinte aux libertés et aux droits de l'homme. Et pour finir, après les momies égyptiennes, la jeune et fraîche Mona Lisa et ce scoop du Point selon lequel la Joconde serait un homme. Pour un groupe de chercheurs italiens, c'est le jeune apprenti de Léonard de Vinci, Salai, qui aurait servi de modèle au portrait de Mona Lisa. Un jeune apprenti qui était probablement l'amant de Léonard de Vinci, et dont on retrouve le visage dans d'autres tableaux comme Saint-Jean-Baptiste. Le musée du Louvre, propriétaire du tableau, rejette évidemment toutes ces affirmations. Je vous laisse sur ces révélations troublantes, et pour les infos d'aujourd'hui, allez surfer sur le net. Bon week-end!
Et bien justement Florence, moi j'ai internet avec moi dans le studio, et donc je peux vous dire en dernière minute hein, que tous les sites internet des grands de la presse nationale française parlent de l'Égypte. Le Figaro parle de milliers d'Égyptiens manifestants dans le pays, Le Monde lui évoque plutôt le pari d'un million de manifestants qui serait possible d'ici la fin de la journée, et a priori une violence importante puisque l'envoyé spécial de Libération dit « c'est une pluie de cailloux qui vole sous nos yeux ». Dans une minute, c'est l'heure des news de l'ENS et tout de suite une petite page de publicité à notre sauce.